Vous écoutez RTL.
Tout de suite, une légende sur RTL, un survivant aussi. On vous raconte le destin d'Eric Clapton. Bonjour Eric Jean-Jean.
Bonjour.
Comment
Salut.
Ça va?
On parle, il y a des Eric alors au menu de la curiosité.
Alors celui-là est particulièrement doué, le dieu Clapton.
Pourquoi c'est un survivant?
C'est un survivant parce qu'il a vécu d'abord les années 60, il a vécu la drogue, il a vécu l'alcool, il a vécu des drames personnels, il a traversé tout cela et reste aujourd'hui probablement l'un des plus grands guitaristes de tous les temps.
Est-ce qu'il est surpris d'avoir atteint cet âge honorable de 73 ans?
C'est un miraculé. Objectivement, peut-être encore plus que Keith Richards, c'est vous dire, c'est un miraculé, c'est-à-dire que c'est un homme qui a traversé vraiment des périodes terriblement difficiles, d'abord avec la drogue au début des années 70, ensuite avec l'alcool à la fin des années 70.
Eric Clapton, dans La Curiosité, on vous raconte l'histoire de ses plus belles chansons sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Si Denis Bonnec, Thomas Hugues. Curieuse, curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
I Shot the Sheriff, Bad Love et bien sûr Cocaine, trois des plus grands tubes d'Eric Clapton. On vous raconte son histoire à l'occasion de la sortie en DVD d'un doc que la BBC lui avait consacré il y a quelques mois. Eric Jean-Jean, qu'est-ce qui représente Clapton dans l'histoire du blues, du rock?
C'est-à-dire que c'est un guitariste moderne qui arrive avec le début des années 60 et qui, au même titre que les Rolling Stones d'ailleurs, s'est surtout inspiré du blues et c'est sa dextérité à jouer de la guitare, de la Fender Stratocaster notamment, puis après une guitare qui sera quasiment fabriquée pour lui, qui va lui permettre, tout en jouant très fort, tout en faisant des grands solos, 70, hein, de devenir, la légende, c'est-à-dire Clapton is God, c'était marqué dans les rues de New York, c'était du tag dans les rues de New York, du tag dans les rues de Londres, et c'est probablement quelqu'un qui a marqué, alors non pas avec des grandes chansons, parce que on peut pas dire, vous avez cité trois chansons, il y en a 4-5 qui sont des énormes tubes, mais c'est surtout dans son jeu de guitare et dans sa non-régularité à être le plus brillant guitariste du monde.
Non-régularité à être le plus brillant. Pourquoi?
Oui, parce que c'est le spécialiste des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'une mauvaise critique tombe, il est capable de ne pas jouer à un concert ou de mal jouer, et puis la drogue, et puis l'alcool, et puis tout le reste.
Alors, le DVD du doc que la BBC lui a consacré à Eric Clapton il y a un an vient de sortir, et c'est un film qui ne cache rien de ses addictions. Vous avez commencé à nous en parler, Eric Jean-Jean. Et si une chanson doit résumer son talent et ses dérives, c'est Cocaïne, elle est sortie en 77.
Alors, elle n'est pas de lui. Hein.
C'est une reprise?
Oui.
On l'écoute un peu quand même. Bon, le
qu'est-ce
message est clair.
Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson? Moi, j'ai pas bien compris.
Alors, si tu veux être en forme et gambader nu dans la rue en face...
Ouais.
Prends cette substance-là.
Enfin, chanson, je veux bien, gambader nu.
C'est une chanson de Gigi Kale qui, en effet, résume bien. D'ailleurs, c'est un peu l'histoire de Clapton. I Shot the Sheriff et pas de lui non plus.
Clapton,
il a fait, oui, exactement. Il a fait des belles reprises et cette chanson, en effet, ça marque, comment dire. C'est peut-être l'un des plus célèbres survivants de la drogue avec Keith Richards. Donc voilà, Cocaïne, il l'a reprise, il en a fait un tube, alors que la version originale de Gigi Kale n'était pas si connue que ça.
Et la cocaïne, il a été accro pendant longtemps, Eric Clapton?
Pas tant la cocaïne, le gros problème d'Eric Clapton. C'est plutôt l'héroïne. En fait, il a été... Alors, d'abord, il y a l'alcool, la cocaïne qui est souvent liée à l'alcool. Et puis, 1970-71, arrive pas mal de gros soucis perso. Et là, il va penser qu'il peut trouver la solution à ses problèmes dans l'héroïne, ce qui est évidemment faux. Et pendant 3 ans, il va sombrer au point que... Vous savez, le fameux concert pour Bangladesh qui est organisé par son ami George Harrison, qui est le premier grand concert caritatif, il va arriver sur scène. Il est l'ombre de lui-même, il est tout maigre et carrément, il tombe dans les pommes en jouant de la guitare. Voilà, il est super mal. Alors, on va le mettre dans une clinique de désintoxication et il va s'en sortir. Après, il replongera dans l'alcool.
Bon, Eric Clapton, on a bien parlé de ses dérives, on va parler de son talent. C'est d'abord et avant tout un musicien de génie qui lui offre sa première guitare.
Son grand-père lui offre sa première guitare, qui est une acoustique d'ailleurs. Il prend l'instrument, il commence à jouer dessus, puis il trouve pas ça terrible, alors il commence à l'arranger. Mais
il trouve ça trop difficile.
Ouais. Ouais, c'est difficile la guitare quand on est un gosse. Ça fait mal aux doigts, c'est fastidieux, c'est laborieux. Et puis lui, surtout, c'est un gosse un peu perturbé. C'est un peu un sale gosse quand qu'il est ado. Bah, parce que probablement son histoire familiale, à 9 ans, il va apprendre que ceux qu'il considère comme ses parents sont en fait ses grands-parents. Il faut savoir que sa mère l'a eu à l'âge de 16 ans avec un soldat canadien. Il est né en 1945 en Angleterre. Et en fait, elle a eu cette aventure. Évidemment, elle est trop petite, donc du coup, elle ne peut pas s'en occuper. Elle l'abandonne. Ce sont ses grands-parents qui l'élèvent. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que sa mère va partir de nouveau au Canada de manière définitive et abandonner son fils, qui sera donc élevé par ses grands-parents, en partant avec un autre soldat canadien.
Voilà, histoire personnelle difficile, ouais. Et des chansons magnifiques. Alors, c'est difficile de toutes les citer, mais celle qui est la mieux classée dans le classement des plus belles chansons de l'histoire, c'est peut-être Layla, écoutez. Dans un instant, on vous raconte comment est né ce tube de Clapton. Et puis tout de suite, on écoute une autre chanson majeure de son répertoire.
Vous ouais, en juste, parliez, juste Eric un truc, Amour. La version que vous passez, c'est ouais. sans doute la plus belle. Et c'est la version qui avait été enregistrée pour le MTV Unplugged dans les années 90, c'est-à-dire en acoustique.
Et on en reparlera dans un instant, Eric. Et on écoute tout de suite en intégralité donc cette reprise d'un succès signé Bob Marley, I Shot the Sheriff. I Shot the Sheriff. Un mot sur cette reprise, Éric Jean-Jean, I Shot the Sheriff, chanson créée par Bob Marley. On est en 74.
Oui.
Quel est l'impact de cette chanson ?
Ah bah, d'abord, ça va commencer et contribuer à démocratiser cette musique-là qu'on ne connaît pas encore. Hein. Ça va arriver avec 76, 77, 78 et les grands albums de Bob Marley. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Eric Clapton, il est en promo pour un album qui s'appelle 461 Boulevard Ocean. Et il va en Jamaïque, il rencontre un jeune musicien qui s'appelle Bob Marley, qui est un tout petit bonhomme comme ça et qui a un charisme absolument dingue et qui a fait avec les Wailers cette chanson. Mmh. Clapton en fait un tube international, ce qui n'avait pas été le cas de Marley. Et du coup, nous, on découvre le reggae.
Et la suite de l'histoire Clapton Bob Marley à venir sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Le plus beau d'Eric Clapton est dans la curiosité, Tears in Heaven, Layla, la saga Eric Clapton, avec évidemment une autre légende de la radio, Éric Jean-Jean.
Oui, j'ai cru quand vous disiez le plus beau que c'était moi, mais pas du tout.
Mais
merci
bien sûr,
beaucoup.
Vous savez très bien que vous êtes le plus beau. On vient d'entendre un extrait de Layla, c'est l'un des plus grands tubes de Clapton. C'est l'une des meilleures chansons de tous les temps, selon le magazine Rolling Stone, et souvent il ne se trompe pas. Cette chanson, qu'est-ce qu'elle raconte comme histoire ?
Alors d'abord, c'est un poème qui s'appelle Layla et Monjun, qui est un poème d'un poète qui s'appelle Nizami, et qui raconte l'histoire d'un homme qui aime une femme mariée. Voilà, bon, jusque-là tout va bien. Sauf qu'en fait, c'est la vérité, cette chanson. C'est-à-dire que.
C'est ce que vit Eric Clapton ?
Le meilleur pote de Eric Clapton s'appelle George Harrison, qui est le guitariste des Beatles, et il est marié à une femme qui s'appelle Patty Boyd. Patty Boyd, c'est un mannequin qu'Harrison a rencontré sur le tournage d'un des nombreux films des Beatles, et voilà, il vit une histoire d'amour normal, sauf que son copain l'aime, et en fait il finira par partir avec, et notamment grâce à cette chanson où il déclare carrément sa flamme à Patty Boyd. Alors, qui deviendra la sienne d'ailleurs de femme pendant de très longues années.
Et donc, ils se parleront toujours, hein.
Oui, et ils vont rester potes, Harrison et Clapton.
Paradoxalement, probablement le reflet d'une époque.
La musique est plus forte que tout.
Parce que je vous pose la question, parce qu'en préparant l'émission, j'ai découvert que George Harrison était un invité, un guest de l'album blanc des Beatles. Eric Clapton, pardon, était un guest de l'album blanc des Beatles, notamment sur cette chanson. Écoutez. While my guitar gently
weeps. Écoutez
Thomas,
écoutez. La guitare. Vous l'avez entendu ?
J'ai un peu parlé dessus. Hein.
C'est la guitare de Clapton.
C'est la guitare de Clapton.
En fait,
j'ai vraiment le sens du rythme.
Je peux encore progresser à tout âge.
Je vais jamais arriver avec vous.
C'est foutu.
Bon, donc il n'est pas rancunier, moralité, George Harrison.
Bah, non, vraisemblablement non. En fait, c'est l'une des rares chansons composées par George Harrison pour les Beatles dans ce double album blanc, parce qu'il y a beaucoup de chansons dans le double album blanc. Ils n'ont pas réussi en fait à choisir pour faire un seul album, donc il y a plein de chansons, dont celle-ci qui est un chef-d'œuvre. Et il demande à son copain Eric Clapton de jouer la guitare qu'on n'a pas entendue.
Bon, et je voudrais quand même qu'on termine l'histoire d'une autre amitié, je ne sais pas, mais entre Eric Clapton et Bob Marley. Donc vous nous dites que Eric Clapton finalement a donné un premier retentissement international à Bob Marley avec la reprise d'I Shot the Sheriff. Qu'est-ce qui se passe après dans leur relation?
Il se passe un truc assez étrange parce que à ce moment-là, on est entre 74 et 75 et il y a deux stars majeures qui vont avoir des actes très bizarres. D'un côté, il y a Bowie, dont on a tous vu l'image, qui s'habille en uniforme nazi et qui salue quasiment avec le salut nazi en se baladant dans Londres. Donc c'est très bizarre. Et de l'autre, il y a Eric Clapton qui va lui défendre un député britannique conservateur, extrêmement conservateur, en disant que finalement il adore la musique, le blues, la musique noire, c'est ce qui l'a inspiré, mais que les noirs ils sont bien chez eux. Donc ça va donner une image un peu bizarre à ce rocker. Faut dire qu'à ce moment-là, Bowie est dans la cocaïne, comme on peut pas l'être plus, et Clapton, qui a arrêté l'héroïne, lui, est dans l'alcool, comme on peut pas l'être plus. Voilà, je cherche pas à les excuser, mais il n'empêche que ces deux déclarations auront pour effet de créer ce mouvement de rock à la fin des années 70 en Angleterre qui va s'appeler Rock Against the Racism.
La curiosité continue sur RTL. On vous raconte le destin d'Eric Clapton et ce drame majeur, la mort de son fils Connor, âgé de 4 ans seulement. C'était le 20 mars 1991.
RTL aime la musique.
Des standards.
Mais aussi des nouveautés.
We are from the north. We came from the south. We are the nation.
Et des découvertes.
On aime la musique sur RTL.
RTL. Première radio de France. RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
Si votre défaut, c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL.
Le destin d'un géant du blues et du rock dans la curiosité. Eric Clapton, le doc que la BBC lui a consacré, vient de sortir en DVD, ainsi que la bande originale de ce film. On peut y entendre cette chanson.
Est-ce que tu aimerais ma main ? Si je te voyais au paradis. Est-ce que tu resterais? Si je te voyais au paradis.
À qui s'adresse-t-il?
À son fils, Connor. En 1986, il rencontre une jeune mannequin, ils ont une relation, le mannequin va tomber enceinte, Patty Boyd va la quitter pour ça, et ce petit garçon qui s'appelait Connor, voilà, va grandir autour d'Eric Clapton, et puis un triste jour, on est le 20 mars 1991, Clapton a un appartement à New York au 53e étage d'une tour sublime, et le petit garçon va échapper à la surveillance de la personne qui s'en occupe et tomber de l'immeuble et mourir évidemment du 53e étage, on peut pas s'en remettre. Et Clapton écrira cette chanson qui est, j'ai des frissons rien que de vous en parler, qui est probablement une des plus belles chansons jamais écrites, notamment par Clapton, mais par tout le monde, qui raconte voilà l'histoire. Je sais pas, au début il commence par est-ce que tu te rappelleras de mon nom si je te croisais au paradis. Il y a une espèce de culpabilité dans l'histoire de cette chanson, de tristesse, d'infinie tristesse. Et Clapton, quand il la chante, notamment au MTV Unplugged, il est à la guitare acoustique. C'est cette version que vous avez écoutée et c'est magnifique.
Si on doit acheter un seul disque de Clapton, c'est celui-là.
Ouais, je pense que le Unplugged, oui, parce qu'il balait toute sa carrière avec les Yardbirds, qui était un énorme groupe avec Derek and the Dominos, mais aussi les racines de sa musique, en l'occurrence le blues. Oui, probablement pour. Et puis surtout, c'est assez facile d'accès. Je l'ai réécouté en préparant cette émission et j'ai pris un plaisir fou.
Eric Jean-Jean, aujourd'hui, Eric Clapton, il compose toujours, il joue. Comment il va? Il a 73 ans.
Ouais, il fait toujours des concerts. Alors, bon, il dit qu'il est à moitié sourd, il dit qu'il a des acouphènes. Faut dire dire que Clapton, l'une des particularités du jeu de Clapton, au-delà du fait que c'était un virtuose, c'est qu'il écoutait très 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 fort et qu'il jouait très très fort. Donc aujourd'hui, ça doit être difficile pour lui. Remettez-vous dans les conditions d'écoute des années 70. Et puis voilà.
Et il souffre aujourd'hui d'une maladie, neuropathie périphérique.
Neuropathie périphérique. Alors, c'est une maladie des nerfs moteurs, et sensitifs des membres, c'est-à-dire des pieds et des mains. Ce qui pour un guitariste qui doit faire les accords avec la main gauche et jouer avec la main droite, c'est pas facile. Donc il a un peu de mal à tenir sa guitare. Il joue de moins en moins, mais il joue quand même encore un peu.
Il fait quelques concerts. Aujourd'hui, il a arrêté la drogue et l'alcool.
Non seulement il a arrêté la drogue, mais ça c'était en 1973. Mmh. Il a arrêté l'alcool des années après. Il a même un centre de désintoxication qu'il finance lui-même. Dans le village qui jouxte l'endroit où lui-même s'est désintoxiqué.
Vous avez pu le voir jouer en concert ?
Ouais, je l'ai vu jouer. Je l'ai vu jouer sur une tournée qui jouait justement en acoustique peu après le Unplugged, parce que ça avait été un énorme succès. C'est un très très gros succès dans sa carrière. Oui, je l'ai vu, c'était très impressionnant, mais pour moi, c'est un peu un dieu pas sympathique, mais un dieu quand même.
Pourquoi pas sympathique ? Vous avez fait une interview, c'était pas terrible ?
Non. Oui, mais distant, un peu froid, pas le mec qu'on a envie de prendre dans ses bras pour faire un hug à la fin d'une interview. Quoi. On est juste très fiers de l'avoir rencontré.
On l'a pas dit, c'est un gros vendeur de disques, Clapton, pas...
Pas tant que ça. Ouais. Il a peut-être vendu entre, 35 et 40 millions de disques. Ce qui n'est pas énorme, comparé aux centaines de millions vendus par U2 ou par les Rolling Stones. Mais c'est un type qui, d'abord, a eu plein de groupes, a traversé des générations et surtout, même quand il était mauvais, il était déjà à 22 sur 20, quoi.
Merci beaucoup. Éric Jean-Jean, vous retrouve.
22 sur 20 pour vous aussi, comme à chaque fois.
Dans le drive sur RTL2, c'est avec Mathilde Courgeot.
C'est dans une heure.
Bah voilà, donc
dès que Flavie a fini.
On sera à l'écoute. Et le grand studio sur RTL, est-ce que vous avez une liaison prochaine invité ?
Non, ce que je peux vous dire, c'est un petit scoop. Le 20 juin, on enregistre un grand studio et c'est la première fois que je vais les rencontrer avec Indochine.
Eh ben super.
Voilà, formidable. Thomas Isra, parce que c'est un grand fan.
Vous écoutez RTL.